Bonjour à tous nos auditeurs. Dans l'émission Ça se discute d'aujourd'hui, nous allons parler de la commanderie templière du Phénix 24 en Dordogne. Et pour ce faire, nous recevons dans nos studios Serge Chabline, commandeur, et Tony Kimbel, chevalier. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Bonjour.
On va commencer l'ordre du temple. C'est quoi au départ ?
Eh bien, l'ordre du temple, à l'origine, c'est ce qu'on appelle les templiers. Donc peut-être les gens connaissent un peu plus ce terme-là, les templiers. C'est très à la mode aujourd'hui, en ce moment. Il y a beaucoup d'émissions qui parlent des Templiers sur toutes les télés de la TNT. Donc à l'origine, c'est un ordre à la fois chevaleresque et religieux, c'est-à-dire assez étonnant, qui a été créé au Moyen-Âge. La première idée, c'est lorsque Jérusalem est redevenue catholique, donc suite à la première croisade en 1095. Donc c'est Godefroy de Bouillon qui a libéré Jérusalem et qui a repris Jérusalem aux musulmans. Donc est arrivé ces catholiques, ces chevaliers et Baudouin Ier. Et quelques années plus tard, donc les futurs chevaliers se sont rendus là-bas. Et l'idée a germé en 1120 par le futur grand maître qui s'appelait Hugues de Pin et le roi Baudouin II à l'époque. Ça, c'était en 1120. Donc, ils ont eu cette idée de créer un ordre à la fois chevaleresque et religieux pour à la fois défendre Jérusalem contre les musulmans, mais également protéger les chemins des pèlerins jusqu'à Jérusalem. C'est ce que l'on dit. Quelques années plus tard, le 13 janvier 1128, donc dans la cathédrale de Troyes, avec l'aide de Bernard de Clairvaux, qui a créé finalement l'ordre aussi avec Hugues de Pin et le légat du pape de l'époque, ils ont créé donc l'ordre du temple officiellement ce 13 janvier 1128. Et c'est là que l'ordre va commencer à exister, commencer à prendre de l'ampleur, avec une main tendue vers tous ceux qui voudraient rejoindre cet ordre, avec trois mots d'ordre, c'est-à-dire pauvreté, chasteté, obéissance. Et donc tous ceux qui voulaient rentrer dans l'ordre devaient laisser la totalité de leurs biens au temple. Donc c'est ce qui s'est produit. Beaucoup de nobles ont laissé leurs terres, leurs châteaux, en échange d'avoir une voie directe au paradis, hein, c'est ce que l'on disait. On était pardonné aussi de tous ces péchés quand on partait en croisade. On était pardonné même du meurtre, pour dire. Et donc, rapidement, l'ordre a eu des biens, des terres. Il a fallu gérer tout ça avec justement des commanderies, ce qu'on appelait une commanderie à l'époque, qui gérait à la fois toute la partie administrative, la partie trésorerie, et puis également qui était un lieu de recrutement. Et donc, il y en a eu des milliers en Europe. La plupart étaient en France. Et l'ordre du temple a commencé d'exister comme ça, rapporté beaucoup d'argent, qui a permis de financer les croisades en Orient, et donc ils sont devenus un ordre très très riche de moines religieux. C'est assez étonnant. Donc ça a duré deux siècles jusqu'en 1307 avec la fin de cet ordre par Philippe IV le Bel, roi de France, qui a donc exterminé les Templiers, à la fois pour leur pouvoir qui lui faisait de l'ombre, mais également pour leur trésor.
La question qui vient tout de suite après, bien sûr, c'est qu'est-ce que l'ordre du Temple aujourd'hui ?
Aujourd'hui, l'ordre du Temple est un ordre chevaleresque, spirituel, qui s'inspire des valeurs templières historiques. Foi, fraternité, service et droiture. Il ne s'agit pas d'une organisation politique, mais d'un chemin intérieur et fraternel.
Alors, j'ai quand même une petite question qui me vient là. Pourquoi avoir créé cette association templière du Phénix ? C'est le nom que vous lui avez donné.
Eh bien, nous voulons perpétuer ces valeurs dont la société est fort dépourvue aujourd'hui, malheureusement.
On va continuer à parler un petit peu. Est-ce que vous avez un lien direct avec les templiers du Moyen-Âge ?
Alors, en tout cas, on essaie de l'avoir le plus possible, puisque c'est la tradition. Ce sont les origines pour nous, même si évidemment les temps ont changé, puisque cette règle des Templiers qui a été établie par Bernard de Clairvaux en 72 points à l'époque de la création, donc en 1128, évidemment ça remonte à loin. Et aujourd'hui, beaucoup de choses ont changé. Évidemment, on ne fait plus vœu de pauvreté ni de chasteté, Dieu merci. Mais pour autant, on essaie d'ancrer nos valeurs d'aujourd'hui sur celles des origines, bien sûr. Donc on essaie de suivre ces fameuses règles, les règles des 72 points, mais également il y a ce qu'on appelle des rituels, c'est-à-dire des textes qui ont été écrits, qui nous permettent de faire des cérémonies une fois par mois, qu'on appelle un chapitre, et on essaie de respecter le plus possible les 9 chevaliers templiers des origines qui ont créé l'ordre, leurs valeurs, leurs traditions, leurs idéaux, qui étaient essentiellement basés sur la fraternité, mais aussi la défense de la patrie. Et aujourd'hui, c'est sûr qu'il y a aussi cette notion d'essayer de lutter contre l'islamisation de la France. Ça, c'était absolument concret. C'est une évidence aujourd'hui aussi. Donc, ce sont toutes ces valeurs-là qui reviennent au goût du jour et qui nous importent énormément, en tout cas. Et on essaie de suivre ces traditions séculaires et les adapter à notre temps.
C'est un ordre religieux ?
Nous sommes un ordre spirituel chrétien, mais nous ne remplaçons ni l'Église ni la foi personnelle. Nous proposons un cadre de réflexion et d'engagement fondé sur l'Évangile et la chevalerie chrétienne. Rassurez-vous, nous ne sommes plus soumis à la pauvreté et encore moins à la chasteté.
Alors pourquoi cet imaginaire médiéval attire encore aujourd'hui ?
Je pense que c'est une résurgence qui se produit en ce moment, justement parce qu'on a perdu toutes les valeurs. On a perdu cette notion de valeur dans tous les domaines, parce qu'il suffit de regarder la morosité ambiante, voire la médiocrité de notre temps, où justement il n'y a plus de valeur spirituelle, il n'y a plus trop d'engagement pour quoi que ce soit, la religion est compliquée, voire morte, les gens ne savent plus trop quoi faire ni penser, ils se réfugient à droite à gauche ou dans des jeux vidéo, dans des drogues, dans des sectes, pour essayer de trouver justement un sens des valeurs. Je pense que ça vient de là, il y a un besoin de retour à certaines valeurs importantes, et nous sommes justement là pour ça. On essaie de réinventer, diriger des personnes qui sont en quête de sens de leur vie, essayer de retrouver cet imaginaire médiéval qui était un esprit de chevalerie, c'est-à-dire de droiture, d'ordre, de valeur morale, de valeur de fraternité, de défense du pays, de défense de la patrie. Ce sont toutes ces valeurs-là que nous proposons, et je pense que beaucoup de gens vont se retrouver là-dedans, peuvent se retrouver là-dedans, justement dans notre époque qui est dépourvue de tout cela.
Concrètement, on a changé de siècle, alors que fait un Templier moderne ?
Eh bien, le Templier moderne travaille avant tout sur lui-même. Discipline, humilité, service. Il participe aussi à des actions fraternelles, caritatives ou culturelles, mais toujours dans un esprit de discrétion et de service.
Alors comment fait-on pour devenir membre de votre ordre ?
Alors c'est assez simple, il y a plusieurs solutions. Il y a des sites internet qui existent, on peut faire une demande sur un site internet, on peut faire une demande directement à une personne qu'on va rencontrer templière, on peut demander à un commandeur, justement, on va expliquer un petit peu les différentes hiérarchies, on peut être parrainé par un chevalier, simplement, faire une demande auprès de quelqu'un qui est déjà dans l'ordre, et puis il y a une petite étude qui est faite sur la personne, j'aime pas trop le terme d'enquête, mais c'est un peu ça quand même, puisque évidemment, on est très attaché à nos valeurs, donc on fait très attention à ce que les personnes qui postulent, hommes ou femmes d'ailleurs, répondent bien à ces règles de droiture, de sérieux, d'engagement qui sont nécessaires pour pouvoir rentrer, mais c'est somme toute assez simple. Et ensuite, donc, il y a tout un système de cérémonies différentes, tout en bas de l'échelle, on peut peut-être en parler maintenant, c'est-à-dire que la personne qui rentre dans ce qu'on appelle un sergent novice, c'est-à-dire tout à fait en bas de l'échelle, pendant quelques temps, quelques mois, puis ensuite il accède au grade d'écuyer et pendant quelques mois aussi, et ensuite prétendre effectivement pouvoir rentrer dans l'ordre en tant que chevalier, on lui remet ce qu'on appelle l'adoubement, c'est-à-dire on lui remet l'épée, la cape, le manteau, et là il devient chevalier à part entière. Après, certains chevaliers montent en grade puisqu'on a besoin également d'une hiérarchie forcément. Et donc il y a le commandeur départemental qui est en dessous du commandeur régional. Et ensuite, nous avons au niveau de la France, nous avons un sénéchal de France qui, lui, gère donc la France entière. On a également un maître. Nous dépendons de la Belgique, donc c'est un maître qui est en Belgique, mais nous n'avons pas de grand maître, puisque le dernier grand maître, Jacques de Molay, a été brûlé vif en mars 1314 sur le parvis de Notre-Dame. Donc depuis, par respect, nous ne l'avons pas remplacé. Notre dernier grand maître, c'était donc Jacques de Molay de 1314.
Il y a besoin d'être parrainé pour intégrer.
Oui, c'est ce que je venais de vous dire. Oui, tout à fait, c'est absolument indispensable. Mais on peut aussi faire une demande libre, c'est tout à fait faisable. On étudie tous les cas de tous ceux qui veulent nous rejoindre. Il y a une petite étude qui est faite sur la personne pour s'assurer qu'elle correspond bien à ce que nous recherchons. Nous avons quand même des valeurs importantes et il faut absolument s'y tenir. Donc on est obligé de savoir à qui nous avons affaire, être sûr que les personnes répondent bien aux valeurs morales, de discipline, de droiture, d'honneur, d'engagement qui nous sont nécessaires pour pouvoir rentrer dans cet ordre.
Pourquoi utilisez-vous des rituels ?
Eh bien, le rituel est un langage symbolique. Il aide à marquer les étapes importantes, à donner du sens et à créer un espace de silence et de réflexion dans un monde très bruyant.
Alors, y a-t-il un rapport avec la franc-maçonnerie ?
Ah, alors là, ça c'est la question qui tue, parce que effectivement, des deux côtés, donc du côté templier, du côté franc-maçonnerie, c'est une bataille qui existe depuis des siècles, depuis très longtemps en tout cas. Alors il y a du pour, il y a du contre, il y a des gens, des templiers et des francs-maçons qui pensent qu'il n'y a pas de lien entre les deux mondes. Pour ma part, je pense qu'il y en a un tout à fait, donc je suis en train de faire des recherches d'ailleurs sur le sujet, parce qu'il faut trouver quand même la réponse à cette question, elle est très importante. Est-ce qu'il y a une filiation directe ou pas ? Pour ma part, il y en a une, donc d'après les textes que je suis en train d'étudier, tout est parti du fils de Marie Stuart qui s'appelait donc Jacques VI, qui était donc fils de Marie Stuart, Jacques Stuart VI, et qui était roi d'Écosse donc à la fin du XVIe siècle. Et il est devenu donc d'abord roi d'Écosse et ensuite roi d'Angleterre et d'Irlande. En fait, il a eu cette couronne du royaume Écosse, Angleterre, Irlande. Et c'est lui qui serait à la base de tout. Donc il est devenu de ce fait Jacques Ier. Et c'est lui qui était très empreint de la tradition templière et qui aurait écrit les premiers textes fondateurs de la franc-maçonnerie tout à fait au début du XVIIe siècle, si j'ai bonne mémoire, c'est en 1603. Et qui a écrit donc ces documents fondateurs qui s'appellent les statuts chauds. C'est à partir de là que tout est parti. Donc, pour ma part, je suis convaincu qu'il y a un lien direct entre les chevaliers du Temple, l'ordre du Temple et la franc-maçonnerie, en tout cas à cette époque-là. Alors après, il y a eu évidemment des modifications qui ont été faites dans les textes. Il y a eu des coupures, donc il y a eu aussi une franc-maçonnerie militaire avec Napoléon. Il y a eu ensuite une interdiction de la franc-maçonnerie à différentes époques, notamment pendant la dernière guerre. Donc il y a eu un peu une chasse aux sorcières, mais et des modifications dans les textes, dans les idéologies, des récupérations à droite à gauche, c'est sûr. Mais je pense qu'à l'origine même, donc avec ces textes des statuts chauds de Jacques Ier Stuart, je pense qu'on a là un point commun entre les deux mondes du temple et de la franc-maçonnerie avec ces textes fondateurs. Donc le lien pour moi direct existe, il y a une filiation directe, oui.
Vous parlez de spiritualité ou d'ésotérisme ?
Eh bien, nous parlons de spiritualité chrétienne et nous abordons également l'ésotérisme. Toutefois, il ne faut pas nous considérer comme des thaumaturges. Les symboles servent à réfléchir, pas à promettre des pouvoirs ou la révélation de secrets.
Alors moi, je me demande pourquoi ce symbole du temple est encore si fort.
En fait, je pense qu'il est toujours si fort que par les temps anciens, mais je pense qu'il n'a jamais en fait disparu. Il n'a jamais été atténué. Donc il faut expliquer un petit peu tout ça. C'est-à-dire que donc à l'origine, comme je vous l'ai dit, l'ordre du Temple est créé en 1228, donc il y a quand même pas mal de siècles. Et ensuite, il y a pendant 200 ans, deux siècles, ça va être vraiment l'explosion du Temple avec énormément de pouvoir, de moyens. Ça a été les premiers banquiers, ce sont qui ont déjà commencé à faire une sorte d'unification de l'Europe avant l'heure. Et donc c'est devenu quelque chose d'absolument gigantesque avec des fortunes financières à la clé, énormément de terres, c'est-à-dire à la fois les terres évidemment en Europe, mais aussi les terres avec les quatre, puis les trois états d'Orient qu'il a fallu créer là-bas, donc c'était énorme, avec des dizaines de châteaux à construire, c'était un véritable empire, et puis bien sûr une trésorerie gigantesque qui a fait forcément rêver pas mal de rois qui ont voulu s'accaparer, c'est le cas de Philippe IV le Bel. Donc quand Philippe IV le Bel, c'est lui qui a lancé ce désir de s'accaparer, plus qu'une histoire d'argent finalement, le trésor du Temple, puisque le trésor du Temple et le trésor de France était au même endroit, c'était au Temple de Paris, à Paris. Tout était stocké au même endroit. Et également, le roi devait beaucoup d'argent aux Templiers, puisque tous les rois d'Europe ont emprunté aux Templiers, leur ont confié d'ailleurs aussi leur trésor, donc ils avaient une responsabilité énorme. Et tout ça s'est arrêté avec Philippe IV le Bel, qui a voulu... Il supportait pas, en fait, l'autorité d'autres personnes que la sienne, puisqu'il a même assassiné deux papes, parce qu'à l'époque, au Moyen-Âge, le pape avait droit suprême sur tout le monde, y compris sur les rois, il pouvait les destituer. Là, il supportait pas ça, donc Philippe IV le Bel a fait assassiner Boniface VIII et Benoît XI, deux papes, pour mettre à la place son ami d'enfance qui était Bertrand de Gausse, qui est devenu Clément V. Donc Clément V, c'est pour cela qu'il a été obligé, malheureusement, d'accepter, puisqu'il lui devait tout, cette machinerie incroyable qu'a fait Philippe IV le Bel pour éliminer l'ordre du Temple. Il a été obligé d'acquiescer, même s'il était fondamentalement contre, on a retrouvé des écrits, comme quoi le pape Clément V, finalement, a trouvé que c'était une véritable ignominie de la part de Philippe IV le Bel d'avoir supprimer l'ordre. Donc, l'ordre a été supprimé officiellement au Concile de Vienne en 1312 et n'existait plus officiellement en France. Mais il a continué d'exister puisqu'il y avait trois branches. Il y avait les Teutoniques qui étaient donc des chevaliers allemands. Il y avait l'ordre du Temple donc créé par les Français qui étaient donc partout en Europe et dans les États d'Orient. Et également les Hospitaliers. Donc, tout ça a continué après. Donc, les Templiers se sont enfuis de France. Ils ont continué d'exister en Écosse. Ils ont continué d'exister au Portugal. Et là, au Portugal, ils ont créé un ordre équivalent qui est devenu non plus l'ordre du Temple mais l'ordre du Christ. Donc ça a continué d'exister et à ma connaissance ça continue d'exister toujours aujourd'hui puisqu'ils ont fait justement, ils ont demandé des comptes au Vatican, réparation contre les atrocités qui ont été faites envers les Templiers. Les Teutoniques ont été abolis que tardivement, c'est-à-dire si je me mémoire est bonne en 1809 par Napoléon. Donc au 19e siècle. Et les Hospitaliers, eux, continuent d'exister aujourd'hui. C'est ce qu'on appelle les Chevaliers de Malte dans 120 pays dans le monde. Donc ça ne s'est jamais tari. La source existe toujours. Donc pourquoi le symbole du Temple est encore si fort ? Parce que simplement, il est toujours dans l'ombre. Il a renaît un petit peu de ses cendres, d'où aussi ce terme du phénix qu'on aime bien dans notre commanderie du 24. Et donc, il est toujours présent. Et je pense qu'il faut simplement ranimer un peu les braises aujourd'hui, à notre temps, pour faire revenir cette idéologie que je trouve vraiment magnifique, cette droiture d'esprit, d'esprit, cette discipline, cet honneur, cette fraternité, cette envie de défendre les valeurs de notre culture française, de notre patrimoine, de notre pays. Et je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est quand même important d'essayer de freiner le plus possible l'islamisation de la France, qui est une tragédie. Tragédie.
Alors, une question, est-ce que vous acceptez les femmes ?
Mais bien entendu. Après être passé par les grades de sergent novice, puis d'écuyère, les dames templières ont le même statut que les chevaliers. Elles prêtent le même serment, ont les mêmes devoirs d'obéissance et les mêmes droits que leurs frères masculins. À part une dague à leur ceinture, elles ne portent pas d'épée. La dame templière est une administratrice, une gestionnaire, une comptable, une infirmière, mais aussi une oreille qui écoute patiemment, conseille et soigne les corps comme les âmes en peine ou blessées. Actuellement, nous comptons 6 sœurs parmi les effectifs de notre commanderie. 2 sergents novices, 1 écuyère, 2 dames templières d'honneur et 1 dignitaire, la grande prieure du Québec qui vient de nous rejoindre en qualité de chapelaine.
Alors il faut préciser effectivement qu'il y a plusieurs postes particuliers. Donc les chapelains par exemple, donc au début de l'ordre des origines, donc il y avait les chevaliers, les sergents, les chapelains, les écuyers bien sûr. Donc les écuyers qui étaient au service du chevalier pour s'occuper principalement des chevaux. Nous avions aussi des sergents, donc les sergents participaient au combat, mais ils n'étaient pas d'origine noble. Les chevaliers qui eux étaient des nobles et les chapelains, et en fait c'était les religieux qui ne participaient pas au combat, mais qui s'occupait des offices. Voilà, une petite précision importante.
Ça coûte de rejoindre l'ordre du Temple.
Alors pas cher, c'est pas cher du tout. Justement, donc vous l'avez dit, nous sommes une association loi 1901, donc il y a une cotisation annuelle qui est juste de 50 euros, simplement c'est tout. Et puis après, donc, nous avons des chaprites une fois par mois, et là nous faisons un repas ensemble, mais souvent chacun amène son obole pour pouvoir faire un repas comme ça, mais il n'y a pas d'obligation, il n'y a pas en tout cas ce problème financier qui existe en franc-maçonnerie que je connais bien, puisque j'en ai fait partie pendant quelques années, qui était vraiment... très clairement une affaire d'argent et de pouvoir. Nous ne sommes pas là-dedans du tout. Nous faisons très attention à justement avoir d'autres valeurs que celles-là.
Alors vous vous réunissez une fois par mois, vous disiez ?
Oui, c'est tout à fait exact. Une fois par mois. Pour l'instant, nous tenons nos réunions non loin de Saint-Émilion, dans un super endroit qui est très chargé en vibrations. Tu pourrais peut-être nous en dire quelque chose.
Oui, c'est en fait, lors de mes conférences sur l'ordre du temple, puisqu'évidemment c'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur, donc j'ai été contacté d'abord par l'ordre, justement, pour pouvoir y rentrer, ce que j'ai fait en décembre de l'année dernière.
2024.
2024, oui, dans un peu plus d'un an. Et j'ai également été contacté par une personne qui a retrouvé une commanderie, alors là on rentre un peu dans l'ésotérisme, mais qui est une commanderie qu'elle aurait connue des siècles auparavant, puisque c'est quelqu'un qui est très médium, et qui a retrouvé une ancienne commanderie qui daterait de 1150. Alors c'est effectivement un lieu fantastique, qui est Blésignac, donc c'était pas loin de Saint-Émilion, c'est vrai. C'est une espèce de rocher de l'extérieur, mais à l'intérieur, en dessous, c'est un véritable gruyère, donc cette femme qui a racheté ce temple, donc cette commanderie, et qui la retape depuis 16 ans maintenant, a trouvé par exemple une grotte souterraine où il y avait des haches en pierre du néolithique, donc ça veut dire que c'est un lieu qui était habité par les hommes depuis au moins 5000 ans. Les Romains sont arrivés donc il y a 2000 ans et ont construit déjà certaines constructions dessus, mais aussi deux moulins, puisqu'il y a une veine d'eau qui passe en dessous. Ils ont construit des moulins à eau là-dedans, et puis les Templiers sont arrivés vers 1150, comme je le disais, et ont rajouté un troisième moulin, parce qu'en fait, le moulin qui existait appartenait à des moines, il fallait payer des taxes pour l'utiliser. Donc les Templiers ont créé leur propre moulin, troisième moulin à eau dans les souterrains. Donc un véritable gruyère, parce que les Romains aussi avaient excavé, tiré de la pierre de ces carrières souterraines. Donc c'est un labyrinthe fantastique à ces bas de plafond qui appellent à l'humidité d'ailleurs, où nous avons un plaisir fantastique, magnifique vraiment à nous retrouver là, parce que c'est un lieu très chargé. Et cette commanderie est presque terminée d'être totalement rénové, il ne reste plus que la chapelle qui va être finie de restaurer cette année. Et c'est un lieu magique, on a beaucoup de plaisir à se retrouver là-bas, sachant qu'après, quand on va être plus au complet ici en Dordogne, on va se réunir plus près de chez nous, c'est-à-dire à la commanderie hospitalière de Condat-sur-Vézère.
Alors, lors de ces réunions, moi je suis un petit peu curieuse, comment ça se passe? Qu'est-ce que vous faites? Vous faites des recherches? Vous parlez de quoi?
Bon, rassurez-vous, nous ne buvons pas le sang de jeunes vierges que nous égorgeons, que nous élevons dans nos souterrains, non. Et tu pourrais peut-être nous parler de l'ordre du jour que je t'ai remis tout à l'heure.
Ah oui, mais je ne l'ai pas pris avec
moi. Tu n'as pas?
On va dire qu'effectivement, nous avons un ordre du jour, donc tous les chapitres mensuels sont prévus à l'avance. Donc on y tient des points précis, ce sont des lectures, donc nous avons tous des travaux à faire. Nous faisons tous des recherches, à la fois pour nous, mais également pour le bien de tous, qui sont lus en public, donc des recherches sur différents symboles templiers, par exemple, importants, sur l'histoire du temple, sur les différents grands maîtres et leur histoire. Nous avons également des textes sur les impressions des visiteurs, parce que nous avons souvent des visiteurs. Il faut savoir, par exemple, pendant l'adoubement, comment j'étais adoubé à l'église de Condat-sur-Vézère, les portes étaient grandes ouvertes, il n'y a absolument aucun secret, tout le monde pouvait venir voir ça. C'est une très belle cérémonie. Dans les chapitres, nous accueillons aussi des visiteurs, donc c'est à la fois, parce qu'il y a, je vous le disais, pas de secret, mais aussi ça peut susciter aussi leur intérêt de venir nous rejoindre. Donc, et nous avons donc aussi, après les rituels de réception, des sergents novices, des écuyers, des adoubements de chevaliers. Et donc nous avons beaucoup de choses à faire. Donc dans ces points, c'est assez fourni en général. Le chapitre dure entre 1h30 et 2h. Et c'est fait justement dans un grand cérémonial qui est vraiment qui est prestigieux, qui est très très élégant. Avec les costumes, bien sûr, nous avons les autels, nous avons les bougies, tout un rituel précis d'entrée, les épées, les chevaliers également en costume.
C'est ce que j'allais vous demander, vous êtes tous costumés.
Absolument, et ça a vraiment de l'allure, je vous assure. Donc les écuyers, sergent Lovis sont en robe noire, croix rouge, et nous les chevaliers sont en blanc et croix rouge templière à 8 pointes. Et nous sommes très également férus de symboles, puisque tout l'ordre du temple, là, il y a une branche très importante, il faut en parler parce que c'est celle qui m'intéresse le plus et dont on parle très peu, voire pas du tout. C'est justement une branche très ésotérique de l'ordre qui a été créée dès les origines par Bernard de Clairvaux et Hugues de Pin, puisque Hugues de Pin, quand Jérusalem est devenu catholique, est allé plusieurs années là-bas faire des recherches et a eu en main des documents très importants qui expliquent explicité où les Hébreux avaient caché des reliques chrétiennes, oui, de la religion liée au Christ, dans les sous-bassements, dans les souterrains du temple de Jérusalem. C'était des textes en hébreu, donc Hugues de Pin les a ramenés en France, et Bernard de Clairvaux et Étienne Harding, qui était le père abbé de Cîteaux, qui a créé l'ordre des Cisterciens, a fait traduire ces textes. Et dans ces textes, il était clairement écrit que ces Hébreux avaient caché, à certains endroits spécifiques, ces reliques religieuses très importantes. Donc évidemment, Bernard de Clairvaux a immédiatement dit « faut aller voir ». Donc à partir de 1118, les Templiers sont partis faire des fouilles à Jérusalem. Ils ont été accueillis à bras ouverts par le roi Baudouin II à l'époque, et qui leur a permis de faire des fouilles. Donc ils ont fouillé pendant 9 années. Ils étaient 9 premiers chevaliers, pas encore Templiers. Et ils ont fouillé donc de 1118 à 1227 pendant 9 ans. Et apparemment, dans la 9e crypte souterraine, donc à l'aplomb du temple de l'ancien temple de Salomon, ils auraient trouvé énormément de choses passionnantes. C'est-à-dire, je suis persuadé qu'ils ont trouvé l'Arche d'Alliance, peut-être le Graal, le fameux Graal de la Seine. Ils ont trouvé en tout cas des textes aussi très importants sur la véritable histoire christique, donc notamment peut-être un évangile écrit par Jésus lui-même, dicté à ses apôtres. Il aurait trouvé la Pistis Sophia, qui fait l'éloge du féminin sacré, qui est la base de la gnose, des gnostiques. Il aurait trouvé le Léviticon, qu'on utilise nous personnellement, qui est en fait l'évangile de Jean au complet des origines. Alors que plus tard, l'Église catholique romaine va supprimer une très grande partie de l'évangile de Jean qui les dérangeait. Nous, on a retrouvé l'original, qui est le Léviticon, qui est notre livre de chevet, notre livre de la loi sacrée sur laquelle nous faisons nos serments, mais également qui était le livre de chevet des cathares qui le partageaient. Donc je pense que tous ces documents-là ont été trouvés, et ces reliques sacrées, donc l'Arche d'Alliance n'est pas rien, je pense qu'ils l'ont ramené en France. Il y a des traces quand même, on suit sa trace jusqu'à la cathédrale de Chartres, après elle disparaît. Mais donc il a fallu continuer ces recherches de la connaissance, et cette partie donc de cercle de templiers dans l'ésotérisme m'intéresse beaucoup, et je pense qu'ils ont continué à chercher les grands secrets du monde. Ils sont allés très loin, ils sont allés en Turquie, ils sont allés en Perse, donc l'Iran, voir les soufis, rencontrer également des branches de musulmans qui étaient très instruits, comme les Tarouks par exemple. Ils sont allés en Égypte, ils sont allés en Éthiopie, essayer d'aller à la recherche des grands secrets du monde. Je pense que c'est l'essence même de l'origine de la création de l'ordre, au-delà évidemment de ce que nous connaissons, c'est-à-dire la partie très guerrière contre les musulmans et les États d'Orient, c'est une évidence. Mais c'est la partie ésotérique qui est la plus passionnante et qui nous intéresse, nous, fortement aujourd'hui.
Quel message vous aimeriez transmettre aux auditeurs qui nous écoutent ?
Le message est celui-ci. Chacun peut, à son niveau, vivre les valeurs chevaleresques, la droiture, la fidélité à la parole donnée, le service des autres. La chevalerie n'est pas un costume du passé, c'est une attitude intérieure. Et si vous me permettez de conclure, je dirais que le temple n'est pas une ruine du passé, ni un souvenir figé dans les livres d'histoire. Il est une exigence toujours actuelle. À travers les siècles, le temple a rappelé une chose simple. L'homme ne se définit pas seulement par ce qu'il possède, mais par ce qu'il choisit de servir. Aujourd'hui encore, chacun peut bâtir son temple intérieur par la droiture de ses actes, par la fidélité à la parole donnée, par le courage de rester juste, même et surtout quand cela coûte. La chevalerie n'est pas un costume ni un titre, c'est une attitude quotidienne qui commence là où l'on refuse la facilité, là où l'on choisit la responsabilité plutôt que l'indifférence. Si ce message a un sens aujourd'hui, c'est parce que le monde a encore besoin de femmes et d'hommes qui sachent se tenir debout, servir sans bruit et faire de leur vie un engagement. L'ordre du Temple ne cherche pas à faire revivre le Moyen-Âge ni à entretenir une nostalgie du passé. Il cherche à transmettre des repères intemporels dans un monde rapide, souvent fragmenté, où tout semble relatif et provisoire. La chevalerie propose une voie étonnamment simple. Penser droit, parler vrai, agir avec conscience. Être chevalier aujourd'hui, ce n'est pas combattre avec une épée, c'est apprendre à se maîtriser soi-même, à servir plutôt qu'à se servir, à chercher l'unité plutôt que la division. Le temple, au fond, n'est pas un lieu extérieur. C'est une construction intérieure faite de discipline, de silence et de fidélité. Et c'est peut-être pour cela que son héritage traverse les siècles, parce qu'il rappelle que la vraie force n'est pas dans la domination, mais dans la cohérence entre ce que l'on pense et ce que l'on dit et ce que l'on fait. Quelles que soient nos croyances, nos cultures ou nos parcours, Nous partageons tous une responsabilité commune, celle de garder quelque chose de précieux en nous. Garder notre parole, garder notre dignité, garder cette lumière intérieure qui nous empêche de renoncer à l'essentiel. L'héritage du temple ne parle pas seulement aux templiers. Il parle à tous ceux qui refusent le cynisme, à tous ceux qui croient que l'homme est plus grand que ses peurs. Servir, ce n'est pas s'effacer, c'est donner un sens à ses actes. Être fidèle, ce n'est pas s'enfermer, c'est rester debout dans la durée. Alors, quelles que soient nos croyances ou nos chemins, nous avons tous à garder quelque chose. Notre parole, notre dignité, notre lumière intérieure. C'est cela, au fond, l'héritage du temple. L'ordre du temple nous rappelle que l'homme a toujours besoin de repères. Dans un monde pressé et fragmenté, la chevalerie propose une voie simple. Penser droit, parler vrai et agir avec conscience. Le temple commence toujours à l'intérieur. La chevalerie n'est pas une coutume du passé, c'est une attitude pour aujourd'hui. Et si le temple a encore quelque chose à dire aujourd'hui, c'est peut-être ceci. Le monde change quand des femmes et des hommes choisissent de devenir les gardiens silencieux de ce qui ne doit pas se perdre.
Voilà, je pense que c'est bien dit, j'ai pas grand-chose à ajouter. Je peux qu'inviter donc les auditeurs qui seraient intrigués ou séduits par ce que nous représentons aujourd'hui de nous contacter, simplement. Donc il y a trois solutions pour ça. Il y a deux numéros de téléphone, je laisse Serge donner le sien.
06 63 12 63 76.
Donc ça, c'est notre commandeur départemental qui va être commandeur régional bientôt. Moi, je suis chevalier, je vais passer normalement commandeur aussi départemental bientôt. Donc, mon numéro de téléphone, c'est le 06 83 42 93 18. Nous avons également un point de contact important. Ça peut être aussi simplement une manière facile de nous contacter. C'est par la commanderie hospitalière de Condat-sur-Vézère, puisque la propriétaire qui est charmante, qui s'appelle Annick Roux, qui est dame templière d'honneur, peut aussi prendre les contacts des personnes. C'est facile à trouver. L'hôtellerie de la commanderie hospitalière donc de Condat-sur-Vézère.
Et vous pouvez également me contacter par mail à l'adresse suivante, templier au pluriel et avec un T majuscule, donc je répète, templier-24@gmx.fr.
Très bien, merci beaucoup pour tous ces renseignements. Je voulais rajouter quelque chose. Vous disiez que vous aviez du travail à faire, vous aviez des recherches à faire. Alors, quelles sont les différences entre quelqu'un qui vient juste de commencer et par exemple un commandeur, entre un chevalier et un commandeur? Vous faites les mêmes recherches, comment ça se passe?
Oui, nous faisons des recherches qui sont en relation à notre niveau de hiérarchique dans la commanderie.
Vous ne faites pas les mêmes choses?
Non, en général, donc le commandeur donne des informations plus sur l'historique, sur les grands maîtres, sur les choses comme ça. Les chevaliers sur des recherches liées à l'ordre du temple avec également le lien avec notre temps. Et les écuyers, les sergents novices sont plus des travaux de recherche justement sur l'humilité, sur le silence, sur leurs impressions vis-à-vis de l'ordre qui est tout nouveau pour eux. Donc ce sont des choses qui en général sont adaptées à chaque hiérarchie dans la commanderie, oui, en général.
Il s'agit d'une imprégnation progressive pour arriver au statut de chevalier.
Est-ce que vous vous réunissez entre plusieurs commanderies?
Alors oui, ça arrive, parce que nous allons tisser des liens très étroits. D'abord, nous en avons déjà avec des commanderies qui existent en Aquitaine, également d'autres en Bretagne, également d'autres dans le nord de la France. Notre but, c'est justement puisque nous sommes une petite commanderie pour l'instant, je vous dis, nous avons commencé il y a un peu plus d'un an seulement. C'est d'où le but aussi de cette émission de radio, c'est d'essayer d'étoffer nos rangs. Donc notre but, c'est de construire d'abord une commanderie en Dordogne extrêmement puissante, parce que nous sommes en relation avec d'autres commanderies qui n'ont pas la même rigueur que nous, très sincèrement. Et aussi, il y a des choses qu'il faudra faire un peu plus tard là-dedans. Je pense qu'il faudra hiérarchiser tout cela parce que ça manque de cohérence pour l'instant, mais il y a tout à construire, il y a beaucoup de choses à faire. Mais en tout cas, c'est ce que nous faisons et nous essayons de faire d'abord, nous, c'est vraiment être une commanderie très forte, avec donc, des valeurs sûres, avec, comme nous l'avons dit, des rituels qui sont basés beaucoup sur le passé, sur les origines. Nous avons fait beaucoup de modifications, contrairement peut-être à d'autres, sur les textes, je vous le disais tout à l'heure. Donc la plupart du temps, on utilise le prologue de Jean, donc c'est la Bible, qui est tiré de la Vulgate de l'Église de Rome. Nous avons refusé ce texte-là. Nous avons récupéré le Léviticon, comme je le disais tout à l'heure, qui est donc l'origine de l'évangile de Jean, donc qui était le livre de chevet des Templiers et des Cathares, dont nous avons, nous, changé ce volume de la loi sacrée pour mettre le Léviticon. Nous avons également modifié la croix, puisque sur l'autel, nous avions des croix latines avant, et personnellement, je trouve que c'est une aberration, puisque la croix latine représente l'église de Rome, et c'est l'église de Rome qui a éradiqué, massacré, poursuivi, brûlé les Templiers. Donc c'est une aberration de continuer, nous, en tant que Templiers aujourd'hui, d'avoir des croix latines sur notre autel. Donc nous avons changé cela, nous avons mis des croix carrées, donc des croix qui sont basées sur les croix celtes, les croix également grecques et les croix Sator, ce serait un peu long à expliquer ici, mais donc voilà, nous essayons, nous, le plus possible de revenir aux origines, de garder l'essence de ce qui était noble et glorieux de l'ordre du temple du Moyen-Âge, et nous allons également des rituels que nous sommes en train de revisiter, essayer de réadapter à notre temps, mais pour pouvoir vraiment ensuite servir d'exemple auprès d'autres commanderies que nous allons créer en recevant des gens qui, à leur tour, vont devenir les commandeurs d'autres commanderies qui vont être liées à nous. C'est déjà en train avec une commanderie qui va se créer sur Bordeaux et une qui va se créer sur Toulouse.
Est-ce qu'il y a autre chose à rajouter ?
Je pense que le principal a été dit. Il ne faut pas saturer les auditeurs.
Ouais, en tout cas, merci à vous de nous avoir reçus. C'est vraiment toujours un plaisir et un honneur. Et donc, voilà, notre souhait, mon commandeur et moi, c'est vraiment d'avoir réussi à intriguer et séduire donc, les personnes qui veulent nous rejoindre. Donc, n'hésitez pas à le faire. Nous ne sommes pas une secte. Il n'y a pas de secret. C'est quelque chose qui est très simple et qui, en même temps, très pur et qui fait appel aux origines des vrais Templiers du Moyen-Âge, et c'est quelque chose de très beau, de très noble, de très glorieux, et je pense que ça peut aider beaucoup de personnes qui, comme je l'ai dit tout à l'heure, sont en quête de sens.
Merci beaucoup Tony et merci Serge d'être venu dans nos studios pour nous parler de cette association Loi 1901, la Commanderie Templière du Phénix 24, donc en Dordogne. Merci à tous les deux.
Merci à vous.
Merci madame.